qu'on a eu le dernier chapitre 28 la semaine dernière. Et on a pensé avec Samuel donner un dernier message en Actes chapitre 29. Enfin, le livre des Actes, c'est le premier volume de l'histoire de l'Église. C'est le récit passionnant des progrès de l'Évangile dans le monde connu de l'époque durant les 30 années qui suivirent la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est le récit enthousiasmant de l'implantation des premières églises dans l'Empire romain par les tout premiers chrétiens. Dans le récit de Luc, on a l'impression que le récit s'interrompt brutalement, laissant les chrétiens de l'époque, au fond, écrire la suite. Et c'est pour cela qu'on appelle cela Acte 29. C'est à nous de jouer, Acte 29. Acte 29, c'est à nous d'écrire l'histoire de l'Église. Et la suite, elle s'écrit aujourd'hui encore, partout dans le monde. L'histoire de l'Église s'écrit depuis des générations, partout où le message de l'Évangile est prêché, là où il est vécu. L'histoire de l'Église s'écrit aujourd'hui à Toulouse et dans les environs. Elle s'écrit par vous et par moi, par notre vie nouvelle, vécue par la puissance du Saint-Esprit à la face de ce monde. Le livre des Actes, c'est aussi un traité missionnaire. Pour que nous connaissions notre mission, et que nous sachions comment l'accomplir. Et ce matin, j'aimerais que l'on considère les progrès encore de l'Évangile, et puis quel genre d'église implanter. Je crois que nous devons redonner ces lettres de noblesse à la croissance numérique. Quand on parle de progrès, on essaie toujours de quantifier, faire quelques statistiques. Je me souviens des responsables de l'Union Baptiste que nous avons rencontrés au Venezuela en 2010, dans un pays qui est deux fois plus vaste que la France et qui compte deux fois moins de population. L'Union Baptiste comptait en 2010, au début de l'année 2010, plus de 500 églises. Et ils avaient comme projet pour l'année 2010 de doubler, d'atteindre 1000 églises. L'ambition avouée était une église dans chaque village, une église dans chaque quartier. Et pour cela, il formait de nombreux serviteurs dans une école biblique, mais aussi dans les églises, à distance. Mais quand on parle de chiffres en France, les volumes sont beaucoup moins flatteurs. Alors on a parfois tenté de spiritualiser certaines de nos lenteurs dans le travail d'évangélisation en disant que l'important n'est pas tant la quantité, mais la qualité des croyants. Je trouve rien de cela dans le livre des Actes. Le livre des Actes ne manque pas de nous donner des résultats chiffrés des progrès de l'Évangile. J'aimerais prendre quelques versets avec vous, peut-être en Actes chapitre 1, le verset 15, il est dit « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies était d'environ 120. » Et puis, un petit peu plus loin, au chapitre 2 et au verset 41, il est dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Au chapitre 4 et au verset 4, « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva environ à 5000. » En chapitre 5 et au verset 14, je lis encore, « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. » Au chapitre 6 et au verset 1, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. » Au chapitre 6 toujours et au verset 7, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Au chapitre 11 et au verset 21, je lis encore, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Au chapitre 12, verset 24, au chapitre 14, verset 1, au chapitre 16, verset 5, et au chapitre 17, au verset 4 et au verset 12, et on pourrait encore continuer les exemples. Oui, je crois que le livre des Actes présente les progrès de l'Évangile aussi avec une composante numérique, visible et d'une certaine façon mesurable. La mention répétée des chiffres et l'indication quantitative dans les Actes indiquent avec force que l'on estimait qu'ils étaient significatifs et représentatifs des progrès de l'Évangile. On a parfois un regard très critique sur les grandes églises aux États-Unis ou ailleurs, évoquant que c'est certainement le théâtre, la superficialité, le marketing, la mondanité ou l'absence de fidélité aux Écritures, le compromis ou que sais-je encore, qui a fait grandir ces églises. C'est tout simplement faux. Il n'y a pas besoin d'être grand pour se compromettre ou pour perdre l'amour fraternel ou la saine doctrine. Dans le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 32, il est écrit « L'église de Jérusalem comptait plusieurs milliers et pourtant la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » La croissance numérique de l'église n'est pas liée avec un abaissement de la foi ou de l'amour ou de la fidélité aux Écritures. Non, l'accroissement numérique est signe de progrès de l'Évangile. En 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 15, l'apôtre Paul explique qu'il est passé par toutes sortes de souffrances. Et il dit « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » De toute évidence, le but de l'apôtre Paul n'a jamais été de soigner sa propre réputation ou sa propre popularité. Ce serait en effet une bien mauvaise chose que de se glorifier soi-même du nombre de croyants. D'ailleurs, lorsque David l'a fait, le Seigneur lui-même l'a châtié lorsqu'il a essayé de faire le dénombrement de son royaume pour glorifier son propre nom. Mais le but ultime de Paul était que plus de voix s'ajoutent au cœur céleste pour louer et adorer Dieu. La grâce, en se multipliant, fasse abonder un plus grand nombre d'actions de grâce. C'est cela ce que cherche Paul. C'est ce que nous devons chercher. Nous voulons chercher à ce que l'Évangile progresse pour qu'un plus grand nombre connaisse les Seigneurs et qu'un plus grand nombre loue le Seigneur pour l'amour qu'il nous a manifesté. Dans l'éternité, la chorale sera rassemblée, nous en serons tous, ça c'est la bonne nouvelle. Et nous chanterons à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Nous serons tous rassemblés, formant un seul peuple, issu d'une multitude de nations, de différentes langues. Mais nous louerons le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, à la croix. On devrait pouvoir mesurer le progrès de l'Évangile dans notre pays, en nombre de croyants dans les églises, et en nombre d'églises. Ce qui est frappant dans le livre des Actes, c'est que les chrétiens n'envisageaient pas la croissance numérique dans une perspective locale exclusivement. Le but n'était pas simplement de faire grandir leur église. Leur vision était bien plus large. En accord avec l'ordre du Seigneur, en Actes chapitre 1, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est cet ordre qu'ils s'efforçaient d'accomplir. C'était une vision locale, régionale, nationale et même internationale. Nous devons nourrir cette même vision, voir notre Église grandir en nombre, mais aussi voir naître deux nouvelles Églises dans la région, dans le pays et dans le monde entier, et d'y prendre part. Quand on évoque cette réalité numérique, on lui oppose parfois la notion de maturité spirituelle. On dit... Il faut, avant d'envisager pouvoir s'occuper de la mission ou de l'implantation d'église, que l'œuvre soit devenue mature sur le plan spirituel. Il y a un petit peu de sagesse dans cette réflexion. Néanmoins, à chercher la maturité spirituelle avant d'oser entreprendre des actions visant la croissance et la multiplication, on finit par ne pas vraiment ni mûrir, ni grandir. En fait, la croissance numérique et la maturité spirituelle sont incontournablement liées. Elles se nourrissent l'une de l'autre. Mettez un groupe de jeunes dans la rue à témoigner de Jésus-Christ et vous verrez à quelle vitesse ils croissent spirituellement. J'ai pas eu besoin d'apprendre comment témoigner. On m'a jeté à l'eau, on m'a jeté dans la rue et puis on m'a dit « Maintenant tu parles du Seigneur, de ce qu'il a fait pour toi. » Et je connaissais pas les Écritures. Alors j'avais saisi l'Évangile de Jean et je disais « Voyez cet aveugle né là ?» Il a dit « Je sais une chose, moi aussi je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Je sais une chose, j'étais perdu et maintenant je suis sauvé. » Et cela, c'est à cause de Jésus-Christ. Parce qu'il m'a aimé, parce qu'il est mort sur la croix pour moi. J'avais pas fait Éphèse, j'avais pas suivi toutes les études bibliques de l'Église pendant toute une année. J'étais dehors pour pouvoir. Et c'est cela qui m'a fait grandir. Prenez des jeunes, confiez-leur des responsabilités dans l'œuvre de Dieu et vous verrez combien ils manifestent de la maturité. J'ai observé ça je ne sais combien de fois. On confie une tâche à un jeune et lui, il est tout tremblant. Il va devant son Dieu et il demande « Oh Seigneur, je vais faire des bêtises si tu n'interviens pas, si tu ne me secoues pas, si tu ne m'aides pas. » Et finalement, ce jeune vient dans la bonne disposition de cœur. Et malgré toutes ses lacunes, malgré toutes ses imperfections, il va glorifier et servir à l'édification du corps de Jésus-Christ. Bien entendu, il y a un accompagnement spirituel qui doit être fait. Bien entendu, on doit encadrer la maturation. Qu'est-ce qui a fait mûrir Timothée, sinon le voyage missionnaire qu'il a fait avec Paul et Silas? Quelque temps après, il faisait équipe avec... Il était un jeune homme quand il est parti avec Paul et Silas. Quelque temps après, il fait équipe avec Silas simplement. Paul est parti plus loin. Et puis encore plus tard, au chapitre 19 des Actes et au verset 22, Paul lui confie la charge d'encourager les églises de la Macédoine. Et cette fois, c'est lui qui est secondé par un autre, Éraste. Voyez-vous, Paul, il a choisi des hommes tels que nous, des jeunes, et puis il les a envoyés dans l'œuvre. Il leur a confié une tâche, une mission. Et c'est dans cette mission-là que ces jeunes ont grandi et ont appris à connaître et à aimer leur Seigneur. Mes frères et sœurs, si nous cherchons à étendre le royaume de Dieu, si nous souhaitons voir de nouveaux pécheurs venir à Jésus-Christ, si nous voulons voir de nouvelles églises naître dans notre pays, nous aurons aussi à combattre, et en particulier dans la prière. Parce que l'ennemi de Dieu ne se laissera pas prendre du terrain sans riposter. Parce que nous avons besoin de nous tenir devant notre Dieu dans sa dépendance pour l'avancement de son règne. Et là encore, c'est sujet d'une grande croissance. C'est quand on est devant seul avec son Dieu que l'on grandit. Juste, j'avais quelques mois de conversion et j'étais appelé sous les drapeaux. Et jusqu'à présent, je faisais partie d'un groupe de jeunes. Je vivais avec des chrétiens. Mon frère était chrétien. On partageait le même appartement. On avait d'autres jeunes. On mangeait tout le temps ensemble. Si jamais on ratait un rendez-vous, on avait l'impression que toute l'église avait été enlevée, qu'on était tout seul resté. Mais ils m'ont conduit au train. Et puis, ils m'ont envoyé dans le train. Et pendant plusieurs semaines, je ne devais pas pouvoir revenir à l'église. C'était les classes. La seule chose qui me restait, c'était le Nouveau Testament que j'avais, que je pouvais lire, et c'était la prière. Et j'ai compris une vérité essentielle dans la vie chrétienne, c'est que la vie chrétienne, elle se développe tout seul devant son Dieu, dans une relation intime avec son Dieu, avant de pouvoir servir et aimer les autres. C'est dans la prière que l'on va combattre. C'est dans la prière que l'on va s'affermir. Ainsi, il est clair que les progrès de l'Évangile ne seront pas seulement numériques, mais aussi spirituels, en profondeur, dans nos cœurs. Jude, il prie dans son épître. Il prie, il combat dans la prière. Il dit au verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Il prie, Seigneur, par le Saint-Esprit, il prie que des âmes soient arrachées, que eux soient préservés de la corruption de ce monde. Qu'ils sachent corriger, rectifier dans la pensée des hommes ce qui est tordu. Il ne doit pas y avoir de coupure entre l'implantation et la gestion des églises. On a envisagé à tort que l'implantation est une affaire de spécialistes, une affaire de mission avec cette vocation particulière, et que la suite est confiée aux nationaux de maintenir le culte et l'administration des églises déjà plantées. Comme si on pouvait dissocier le travail d'implantation et celui d'affermissement. Mais c'est par l'implantation, c'est par la mission que l'Église s'affermit. C'est en développant sa perspective missionnaire que l'Église se développe. Alors, voilà notre but. Voilà acte 29 pour nous. Continuer à grandir en nombre et en foi. Et puis, implanter des églises dans toute cette région de Toulouse, et peut-être encore soutenir des missionnaires dans tout le pays et dans le monde entier, si Dieu le veut, ou si Dieu le permet plutôt. Mais alors, quel genre d'église implanter? Une de mes églises préférées du Nouveau Testament, c'est l'église d'Antioche. C'était une église modèle pour moi, et je pense pour tout chrétien. Elle a été fondée par des chrétiens qui fuyaient la persécution de Jérusalem. C'est là que Paul et Barnabas enseignèrent tant et si bien l'évangile que les disciples de Christ furent appelés pour la première fois des chrétiens. C'est à Antioche que partit la première équipe missionnaire. Cette église d'Antioche entretenait d'étroites relations fraternelles avec l'église de Jérusalem. Pendant une famille, ce sont les frères d'Antioche qui firent parvenir une aide matérielle aux chrétiens de Jérusalem. C'est eux qui, soucieux de l'intégrité de l'Évangile, suscitèrent le premier concile de Jérusalem sur la question de la circoncision des païens convertis. Cette Église ne cesse de croître en nombre et en foi. Mais j'aimerais regarder une autre Église, celle de Jérusalem, d'après le livre des Actes au chapitre 2, et relever dans les versets 40 à 47... Quelques traits. Je lis versets 40 à 47. Et par plusieurs autres paroles, donc c'est la fin du discours de l'apôtre Pierre à Pentecôte. Il leur a prêché « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et puis il dit « Et par plusieurs autres paroles, verset 40, il les conjurait et les exhortait disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà, cette Église de Jérusalem, comme celle d'Antioche, manifeste 5 signes vitaux caractéristiques d'une Église remplie du Saint-Esprit. Elle possède une théologie profonde, elle possède des relations fraternelles intenses, une adoration joyeuse, une évangélisation pertinente et un service généreux. Regardons ces cinq signes vitaux rapidement. D'abord, une théologie profonde. Il persévérait, verset 42, il nous a dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est quoi l'enseignement des apôtres? C'est quoi? En quoi leur enseignement diffère-t-il de l'enseignement des pharisiens? Ils n'ont rien d'autre que la même parole, les mêmes écrits. L'enseignement des apôtres, c'est l'évangile. C'est cela qui a fait toute la différence. Il persévérait dans cet enseignement parce que l'évangile, ce n'est pas le B.A.B.A. de la vie chrétienne, mais c'est le A à Z, comme on le dit régulièrement. Ce n'est pas seulement le moyen par lequel on entre dans le royaume de Dieu, mais c'est le moyen pour régler chaque problème dans notre marche de chrétien. Notre croissance, notre maturité dépend de la compréhension et de l'application de l'évangile dans notre vie. Et nous souhaitons des églises fondées sur l'évangile. Et c'est pour cela que ce soit dans l'école du dimanche, que ce soit dans les réunions de couple, que ce soit dans les familles, que ce soit à Éphèse, le but principal, c'est de poser les bases de l'évangile et de les répéter et de persévérer dans ces choses pour que les cœurs soient formés à la ressemblance de Jésus-Christ. La deuxième chose qu'ils avaient, c'était des relations fraternelles intenses. Au verset 40, il est dit, « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Pourquoi pensez-vous que Pierre leur dit de se sauver de cette génération perverse ? Pierre, il reconnaît que ses auditeurs ne sont pas simplement des pécheurs individuels, mais que ses auditeurs participent à un état d'esprit. Ils font partie d'une génération qui est dévoyée dans son entendement et dans ses actions. Ils doivent changer d'état d'esprit. Et c'est cela l'œuvre de l'Évangile. Il bouleverse notre conception de la vie. Il bouleverse notre entendement. Il va bouleverser toutes nos relations. Il bouleverse le but de mon existence. Mon existence avant, le but de mon existence avant de connaître le Seigneur, c'était d'être riche et de jouir de la vie comme je pouvais. Mais je peux vous dire que le but a changé. Ça a transformé ma vision du monde. Ce que j'appelle aujourd'hui une vie réussie, ça n'est pas ce que j'appelais autrefois une vie réussie. L'Évangile va bouleverser nos relations. L'Évangile va bouleverser ma manière de travailler. Va bouleverser mes relations professionnelles, familiales. Va même bouleverser mon identité culturelle. Tout va être vu désormais à la lumière que projette l'Évangile. Ça signifie également que l'Église est une nouvelle génération. L'Église, c'est un peuple nouveau. L'Église, ce n'est pas simplement un rassemblement de personnes qui ont été sauvées, mais c'est comme une famille témoin. Une famille témoin de ce que doit être l'humanité sous la Seigneurie de Christ. La promesse de Dieu dans le salut est de se former un peuple qui porte son nom. Une nation sainte. Un peuple au milieu duquel il habite pour toujours. En 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18, il est dit « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. » L'Évangile nous dit que nous sommes plus méchants que nous aurions jamais osé le croire, mais que nous sommes aussi plus aimés et acceptés en Christ que nous n'aurions jamais osé l'espérer. L'Évangile nous dit que le pécheur qui place en Jésus-Christ sa confiance, et non dans ses propres efforts et propres mérites, paraîtra devant Dieu, saint, sans défaut et sans reproche. Colossiens chapitre 1, verset 22. L'Évangile dit que la racine du péché, ça n'est pas simplement notre désobéissance envers Dieu, mais aussi la recherche de notre salut dans notre obéissance et non dans la foi en Jésus-Christ. Ceux qui cherchent leur salut dans la pratique religieuse, ils pensent être acceptés de Dieu parce que tous les dimanches ils vont à l'église. Et puis ils donnent, ils sont généreux. Et parce qu'ils lisent même la Bible. Et parce qu'ils sont fidèles à leur épouse et qu'ils payent leurs impôts. Tout cela méprise Christ, rejette Jésus-Christ, de la même manière que ceux qui vivent sans lui et qui vivent n'importe comment. L'Évangile nous donne une nouvelle identité. Lorsque je recherche à établir ma propre justice, ma propre valeur par mes performances, qu'elles soient professionnelles, familiales, sportives, je suis un bon ouvrier, je suis un bon mari ou un bon père de famille, ou je suis un bon athlète, alors je suis tantôt fier et puis dédaigneux des autres qui n'ont pas excellé comme moi. Ça, c'est lorsque j'atteins mes buts, mes objectifs. Mais quand je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, alors je suis déprimé, je suis complètement déçu, abattu. Mais l'Évangile dit que, quelle que soit la couleur de ma peau, quelle que soit ma culture, ma richesse, mon passé, mes compétences, je suis accepté parfaitement en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seulement. Vous voyez la base extraordinaire pour la communion fraternelle que nous offre l'Évangile. Je n'ai pas besoin de porter un masque. Je n'ai pas besoin de paraître quelqu'un. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. 1 Corinthiens 15-10. Je suis comme tous les autres. Et nous sommes tous, les uns comme les autres, des pécheurs pardonnés. Et j'ai tout reçu, de la même manière que vous avez tout reçu, et seulement en Jésus-Christ. Je peux pardonner aussi les autres parce que j'ai été pardonné. Je ne me glorifie pas aux dépens des autres. Si je me glorifie, alors c'est en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans ce que le Seigneur a fait dans ma vie. L'Évangile porte un coup terrible à la jalousie, à l'égoïsme, à la suffisance. C'est-à-dire, il porte un coup terrible à tout ce qui ruine la communion. Et c'est pour ça que dans l'Église, la manifestation de l'amour de Dieu par l'Évangile, eh bien, est visible, il est palpable. Il est dit ici qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Ça signifie que ce n'était pas quelque chose qui était là simplement, mais il travaillait à cette communion fraternelle. Et je crois que si nous devons encore grandir, il faut qu'on travaille encore et encore à cette communion fraternelle. Parce que nécessairement, il y aura des frictions, nécessairement, il y aura des besoins de se pardonner, de confesser, d'enlever notre masque, de prier les uns pour les autres, de se secourir. Et puis, il y avait dans cette église de Jérusalem une adoration joyeuse. Il est dit, il persévérait dans la fraction du pain et dans les prières. Et au verset 46 et 47, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Ça n'était pas fait n'importe comment. Il y avait de l'ordre dans ces choses, de la révérence, mais aussi il y avait beaucoup de joie. Ça signifie que la joie et la révérence dans la louange devraient être les marques de notre adoration. Dans nos prières, dans nos cantiques. J'aime ce passage de Job. Il est dit, il chante, cet homme qui a trouvé une rançon pour sa vie. Il dit, il chante devant les hommes et il dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie maintenant s'épanouit à sa lumière. L'évangile devrait être le thème principal de nos louanges. Et dans nos cantiques, et dans, nos, dans les chants que l'on élève au Seigneur, ce devrait être en particulier l'évangile que nous élevons. De ce fait, ces églises avaient, ou les églises que nous aimerions former, auraient une évangélisation pertinente. Il y avait des conversions chaque jour dans cette église, verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est beau, hein? Et comment cela? Comment ces choses se faisaient? C'était basé sur le témoignage collectif. L'une des raisons pour lesquelles les gens étaient sauvés, c'est l'amour et la louange de l'Église qui étaient hautement attractives pour les gens du peuple. Ça ne signifie pas que tous les incroyants aimaient l'Église primitive. On sait hein, par ailleurs combien cette Église a été persécutée. Mais cette Église démontrait la beauté de l'Évangile dans sa vie communautaire d'une façon qui était irrésistible pour les observateurs extérieurs. Et c'est ce que nous devons faire. Si nous vivons l'Évangile au milieu de nous, si nous glorifions le Seigneur par nos cantiques, par nos louanges, par nos vies tout entières, alors le monde à l'extérieur voit un peuple nouveau. Il voit un peuple qui s'aime, avec de nouvelles règles, avec de nouveaux principes de vie. Et c'est cela qui les attire. Et ça, c'est irrésistible. C'est la vie de l'Évangile au sein de l'Église qui va faire grandir l'Église. Et puis, ils avaient un service généreux. Ce n'était pas les mots seulement, mais des actes. Hein, au verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. C'était un amour pratique. Principalement envers les frères, envers les chrétiens, mais pas seulement. Hein. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, au verset 10, il dit qu'on doit user de bienveillance envers les frères, premièrement, mais aussi envers le monde extérieur. Leur générosité s'étendait en dehors de l'Église elle-même. Il ne s'agit pas d'une règle ici, où tous doivent tout mettre en commun, comme s'il y avait une abolition de la propriété privée. Mais c'est un partage volontaire. C'est un partage informel, mais puissant. Ce partage, il est nourri par l'amour et non par une loi. C'est l'Évangile mis en pratique. Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 8 et au verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. » Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est cela qui provoquait cette générosité et ce service pour les autres. Et puis, je voudrais relever encore que l'ensemble du ministère de l'Église était centré sur l'Église locale. Quand une personne était sauvée, verset 47, elle était ajoutée à l'Église. Elle était incorporée, c'est-à-dire... Elle voulait faire partie, elle voulait entrer dans cette communion. Mes frères et sœurs, le témoin nous est parvenu. C'est à nous d'écrire l'histoire de l'Église. C'est à nous de raconter ou d'écrire les progrès de l'Évangile. Certainement par une croissance numérique pour que les actions de grâce soient plus nombreuses. Mais nous voulons par-dessus tout que les chrétiens et les églises vivent le message de l'Évangile parce que c'est le but, mais aussi c'est le moyen de la croissance. Par la grâce de Dieu, cette année, on aimerait voir notre église déménager. parce que nos locaux sont trop petits. Mais on voudrait aussi voir des églises implantées dans la région. Parce qu'en multipliant le nombre d'églises, on multiplie le nombre de témoignages. On multiplie le nombre de vitrines de l'amour de Dieu dans notre monde. Tout cela, ça peut être fait que par l'œuvre du Seigneur, que dans la dépendance du Seigneur, que par une vie pratique de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'avec Samuel, on s'efforce d'expliquer ces choses et de les répéter, parce que c'est la base, c'est le socle pour une croissance de l'Église, non seulement en nombre, mais aussi en foi, en zèle, en amour. Alors que Dieu nous bénisse, que cette année 2012-2013 soit dirigée par lui pour l'avancement de son œuvre et la gloire de son nom. Prions, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour le bonheur de former une église. Et Seigneur, ici, ce sont que des pécheurs qui se réunissent. Alors tu sais combien c'est facile pour que toutes les choses, toutes les relations explosent, que tous les ministères s'effondrent. Mais Seigneur, nous croyons que par ton évangile et par l'enseignement de ta parole, tu peux nous rendre capables de vivre à la gloire de ton nom. Seigneur, c'est ce que nous voudrions faire. C'est ce que nous voudrions voir. Nous te demandons pour que tu fasses encore grandir cette œuvre en nombre, mais aussi en foi. Que tu permettes que d'autres églises voient le jour dans cette région, dans notre pays, qui souffre si cruellement de l'absence de l'Église. Merci Seigneur notre Dieu de nous venir en aide. Merci de nous aider chacun à entrer dans le ministère et à y entrer sur cette base de ton évangile. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir t'appartenir. Mais Seigneur, ce matin, si jamais il y avait quelqu'un qui n'était pas encore entré dans ton peuple, qui ne faisait pas partie de cette famille de rachetés, de cette nouvelle génération que tu t'es acquise, de ce peuple élu, de cette nation sainte. Si quelqu'un avait compris tout ce que Jésus-Christ a fait pour lui, je voudrais l'inviter à faire cette prière dans le fond de son cœur. Seigneur, vous pouvez répéter ces choses dans votre cœur. Seigneur, pardonne mes offenses. Je réalise combien ma vie sans toi est une offense à Jésus-Christ. Que je suis coupable non seulement de toutes mes désobéissances, mais encore à rechercher mon salut, à essayer d'établir que je suis quelqu'un de bien au travers de mes propres performances, de mes propres mérites, de mes propres efforts. Seigneur, je rejette là encore l'œuvre de Christ et je te demande pardon. Je veux simplement être ton enfant, simplement par la foi dans ce que tu as accompli pour moi. Tu as accompli une vie parfaite pour moi et tu es mort de la croix à cause de moi et pour moi. Je veux, Seigneur, être ton enfant ce matin. Je crois en toi. Merci de me recevoir. Merci d'entrer dans ma vie et de m'ajouter à cette église. Tout cela pour la gloire de ton nom.